auditeurs de Radio Espérance, bonsoir. Nous sommes heureux de vous accueillir en direct depuis la chapelle de la Visitation à Paray-le-Monial pour vivre ensemble l'heure sainte en cette veille du premier vendredi du mois. La veillée débutera par un enseignement, puis le Saint-Sacrement sera exposé pour un temps d'adoration méditée. Bonne veillée prière, bonne veillée de prière à toutes et à tous. Thank you.
Bonjour à tous et à toutes. Très bonne année à chacun, ainsi qu'aux auditeurs de Radio Espérance. Nous allons très brièvement invoquer l'Esprit Saint. Viens, Esprit de sainteté, emplis nos cœurs de ton amour, de ton feu, embrasse-nous. Viens, Esprit de sainteté, emplis nos cœurs de ton amour, de ton feu, embrasse-nous. Bienvenue à ceux qui sont peut-être déjà arrivés pour participer à ces Paradeis. Donc le thème des enseignements de ces Paradeis à l'intention des néophytes, mais c'est évidemment, les Paradeis sont ouverts à tous, mais il y a une intention très particulière et une attention particulière portée aux néophytes, eh bien les enseignements seront centrés sur les sacrements de l'Église. C'est pourquoi il nous a semblé bon aujourd'hui de considérer la source de tous les sacrements, et source qui n'est autre que le cœur de Jésus lui-même. Donc on peut dire que le titre général de cet enseignement, qui est très simple, le cœur de Jésus, source des sacrements. Le bienheureux Don Colomba Marmion, père abbé de l'abbaye de Maredsous en Belgique, mort en 1923, béatifié en l'an 2000 par Jean-Paul II, dit que la fête du Sacré-Cœur, vue sous un certain angle, est la célébration la plus importante de l'année liturgique. Car, dit-il, nous contemplons dans ce cœur la source absolue de tous les mystères du Christ. C'est l'amour du cœur de Jésus qui est comme le moteur de toutes ses attitudes, de ses paroles, de ses gestes, de ses enseignements, de ses miracles et surtout de toutes les étapes de son acte rédempteur, passion, mort, résurrection, ascension, Pentecôte. C'est d'ailleurs bien la raison pour laquelle la liturgie actuelle, dans une heureuse intuition justement, la liturgie actuelle célèbre le cœur du Christ le vendredi qui suit les grandes solennités dominicales qui précèdent, Pentecôte, Sainte Trinité, Saint Sacrement du corps et du sang du Christ, comme pour couronner le tout, en revenant à la source. Donc, à un titre spécial, il nous faut dire que les sacrements de l'Église ont leur source dans le cœur transpercé, d'où jaillissent le sang et l'eau. Je propose deux approches de contemplation. La première est inspirée de la mosaïque qui est au-dessus de la châsse de Sainte Marguerite Marie, où on voit le cœur entouré de la couronne d'épines, la croix étant déjà plantée dans le cœur et des flammes en jaillissant. Je rappelle qu'il s'agit d'une vision qu'a eue Marguerite Marie. Le sens de cette vision lui avait été expliqué par notre Seigneur lui-même, elle l'a ensuite retransmis. Notre Seigneur lui a fait comprendre que dès le tout premier instant de son existence comme homme, donc dans le sein de la Vierge Marie, la passion avait déjà commencé, la croix était déjà plantée. La dimension de la passion était déjà présente, non pas pour en faire une sorte de mémoire doloriste, mais pour nous rappeler avant tout que c'est l'amour passionné du Christ qui fait qu'il s'est incarné, l'amour passionné du Verbe, l'amour passionné du Père pour ses créatures et qui envoie son Fils prendre notre condition. Et le Fils s'offre, il accepte cette invitation du Père. Et donc, la passion est déjà présente. Donc Jésus est déjà grand prêtre dès le premier instant de son existence comme homme. Et c'est cette approche pour l'instant que nous considérons. Le cœur de Jésus, j'allais dire, à ses tout débuts dans son existence humaine. D'une certaine façon, les sept sacrements qui découlent de son sacerdoce unique, puisque nous disons qu'il est déjà grand prêtre, dès le premier instant de son existence, en effet, il est grand prêtre parce que dès qu'il est homme, naturellement, il vient déjà au-devant de toute l'humanité et de toutes les détresses, de toutes les situations humaines. Il n'attend pas l'âge adulte pour cela. C'est dès le début que le cœur de Jésus, même encore à l'état embryonnaire, est déjà saisi de cette compassion dont parle l'Épître aux Hébreux. Le cœur, le grand prêtre, capable d'être saisi de compassion, ayant été éprouvé en toute chose, or il est éprouvé en toute chose, peut-être même mystérieusement, dès le tout début de son existence, à l'exception du péché. Donc, d'une certaine façon, les sept sacrements qui découlent de son sacerdoce unique sont déjà présents dans son cœur d'homme venant en ce monde. La première parole, en quelque sorte, du Verbe qui se fait chair, nous est rapportée par l'Épître aux Hébreux. « Me voici, ô Dieu, je viens pour faire ta volonté, tu m'as façonné un corps. » Et les sacrements sont donc déjà d'une certaine manière agissants avant même ce qu'on pourrait appeler leur institution. Il est le grand prêtre dont l'amour qui habite son cœur vient au-devant de toutes les situations humaines, de toutes les détresses. Par la chair qu'il assume dans le sein de la Vierge Marie, il s'unit si pleinement à notre humanité qu'on peut déjà dire, bien sûr dans une affirmation de foi, que notre pauvre humanité, blessée par le péché, est déjà comme en contact avec sa sainte humanité, et que nous sommes comme baptisés en lui, en germe bien sûr, mais il y a déjà comme une sorte de baptême en lui, en vertu justement de son humanité, qui recouvre par sa sainteté et sa pureté la nôtre, et cela dès le premier instant, par le seul fait qu'il existe comme homme, que le Verbe éternel par qui tout a été fait, eh bien, qu'il vient prendre notre condition. Donc déjà, il sanctifie notre condition. Donc le sacrement de baptême est comme en germe, en tout cas, dans le mystère de l'incarnation, par le fait même de l'incarnation. Et en fait, notre baptême à nous, nous configure à sa propre conception et naissance. Nous sommes nés, non pas de la chair et du sang, nous dit saint Jean dans son prologue, mais de l'Esprit Saint et de l'Église, comme lui est né de l'Esprit Saint et de Marie. Et le sacrement de confirmation, lui, semble aussi déjà se manifester lorsqu'on considère que la simple présence de Jésus, justement, encore dans le sein de sa mère, a suscité une véritable effusion de l'Esprit en Jean, le précurseur, lui aussi dans le sein de sa mère. Et cette même effusion de l'Esprit qui a ensuite atteint Élisabeth, la mère de Jean. Donc Jésus venant au monde, d'abord sous la forme de l'embryon, puis comme nouveau-né à Noël, s'offre déjà et nous communique déjà l'Esprit par lequel il a pris chair lui-même de la Vierge Marie, elle-même comblée de grâce, comblée de l'Esprit-Saint. Donc il y a d'une certaine façon déjà le sacrement de la confirmation qui est en filigrane dans le cœur de Jésus encore dans le sein de sa mère ou nouveau-né. Maintenant, continuons. Jésus venant au monde, d'abord sous la forme de l'embryon dans le sein de la Vierge Marie, puis comme nouveau-né à Noël, à Bethléem, s'offre déjà lui aussi comme hostie vivante, comme nourriture. Le symbolique est assez fort, il est né à Bethléem, la maison du pain, en hébreu. Le cœur de Jésus, encore dans le sein de Marie, est déjà sacerdotal, comme nous l'avons dit, donc il est nécessairement déjà eucharistique. Il s'offre. En fait, la Vierge Marie est celle qui porte la première en son sein, sous son cœur virginal et immaculé, la présence réelle. Là, nous abordons, vous avez bien compris, le sacrement de l'Eucharistie. Et nous le disons dans la litanie du Sacré-Cœur, cœur de Jésus substantiellement formé dans le sein de la Vierge Marie. Qu'on me permette, là encore, de citer, comme vous le savez, la vénération que j'ai pour lui, le grand compositeur catholique Olivier Messiaen, qui écrit à l'occasion d'une pièce qu'il a composée en l'honneur de la Vierge Marie, il écrit que entre l'Annonciation et la Nativité, Marie adore le fruit caché en elle, et il dit, c'est la première et la plus grande de toutes les communions. C'est la première et la plus grande de toutes les communions. Et le génial musicien théologien qu'est Messiaen fait même entendre à un moment donné, dans cette pièce, les battements du cœur de l'enfant dans le sein de sa mère. Il le fait entendre au moyen de notes répétées très douces dans le grave du piano. Il a donc perçu quelque chose du cœur sacerdotal et eucharistique du Christ encore dans le sein de sa mère. Alors évidemment, il n'est pas le seul. Bien des années plus tard, Jean-Paul II, dans son encyclique sur l'Eucharistie, dira que Marie, durant les 9 mois de sa maternité, peut être considérée comme le premier tabernacle de l'histoire. Premier tabernacle de l'histoire. Tabernacle vivant, naturellement. Après ce que nous avons dit déjà sur Jésus, qui est déjà grand prêtre dès le sein de sa mère, il n'est pas difficile de voir dans le cœur de Jésus encore à naître, ou nouveau-né à Bethléem, la source du sacerdoce ministériel. Comme d'ailleurs, ça découle aussi de ce que j'ai déjà dit, comme d'ailleurs la source du sacerdoce commun des baptisés. Concernant le sacrement de l'ordre, il s'agit de ceux qui doivent exercer le ministère du salut in persona Christi, en la personne du Christ. C'est surtout Jésus nouveau-né qui manifeste déjà cette dimension sacerdotale de son cœur. Il attire vers lui, comme on le lit dans la liturgie, il attire le monde entier, les bergers, les mages. Il est l'objet de la louange des anges dans le ciel. Et il est aussi déjà signe de contradiction, combat contre les ténèbres, avec la fuite en Égypte et le massacre des innocents. Quant au sacrement du mariage, il est signifié au plus haut point par le mystère de l'incarnation, précisément. Dès le premier instant de son existence comme homme, dans le sein de sa mère, le Verbe qui se fait chair s'unit à l'humanité entière, comme pour une alliance nuptiale. Il épouse notre humanité. Comme dira saint Paul plus tard dans la lettre aux Éphésiens, il nourrit cette humanité. Mais cela, il le fait dès le premier instant, en tout cas en puissance. Il nourrit cette humanité comme son propre corps, comme si elle était son propre corps, en la recouvrant de sa sainteté et de sa pureté. Ça, c'est le baptême en puissance, en lui donnant l'esprit. Ça, c'est l'épisode de la visitation que nous avons évoqué, confirmation en puissance, en la nourrissant de son corps, ça c'est l'Eucharistie, encore en puissance, et en se présentant à elle comme le bien-aimé du cantique, comme l'époux qui veut s'unir à son épouse. Nous nous rappelons cette autre invocation de la litanie du Sacré-Cœur, cœur sacré de Jésus, le désiré des collines éternelles. Quant aux deux sacrements de la guérison spirituelle et parfois corporelle aussi, que sont le sacrement de la réconciliation et le sacrement des malades, ils découlent tout naturellement de ce que nous avons dit jusqu'à présent. Comme le disent de manière diverse certains hymnes du temps de l'Avent, le Verbe descend des cieux, puis prend chair dans le sein très pur de la Vierge Marie pour donner guérison à ce monde qui s'en allait dans la langueur, dans sa langueur. Et le sacrement de la réconciliation, dont le fruit le plus important est la conversion et le changement de vie, peut être idéalement, alors il ne s'agit pas ici d'une comparaison ou d'une analogie systématique, mais le sacrement de la réconciliation, en tout cas dans ses fruits, peut être idéalement symbolisé par la visite des mages, ces savants qui se prosternent et offrent à l'enfant toutes leurs richesses, matérielles certes, mais aussi culturelles et spirituelles, tout leur savoir, leurs connaissances. Et ils repartent ayant l'enfant et sa mère comme unique bien et richesse, retournant chez eux par un autre chemin. Même si la raison première de cet autre chemin est le fait d'éviter Hérode, il y a aussi un symbole spirituel dans cet autre chemin. En d'autres termes, ils n'ont plus besoin de la lumière d'une étoile extérieure pour les guider. Ils ont reçu la lumière intérieure, l'astre d'en haut qui vient nous visiter et qu'ils ont contemplé à Bethléem. Ils retournent par un autre chemin. La deuxième approche que je voudrais vous proposer maintenant est plus inspirée, elle est peut-être aussi plus classique, par l'événement même relaté par saint Jean concernant le transpercement du cœur de Jésus sur le Golgotha. Le cœur du Christ, là encore, est contemplé comme source des sacrements. Alors tout d'abord, l'épisode lui-même est très clair. Un des soldats de sa lance lui perça le côté, et il en sortit aussitôt du sang et de l'eau. Et toute la tradition de l'Église dit que là, il s'agit de la naissance mystique de l'Église, signifiée justement par ces deux sacrements principaux, fondateurs et centraux. L'eau qui signifie le baptême et le sang qui signifie l'Eucharistie. Donc déjà, vous avez ces deux sacrements qui sortent du cœur transpercé de Jésus et qui signifient la naissance de l'Église, qui est elle-même par excellence le sacrement de la nouvelle création, le sacrement du salut. Donc baptême et Eucharistie sont déjà manifestés dans ce verset de saint Jean. Il en sortit aussitôt du sang et de l'eau. Le sacrement de la confirmation, qui nous parle du don de l'Esprit-Saint, est surtout évoqué dans ce passage de saint Jean par les deux symboles de l'Esprit-Saint de ce chapitre 19. Tout d'abord, au moment même de la mort de Jésus, inclinant la tête, il remit l'Esprit. Puis, quelques versets plus tard, l'eau qui jaillit du côté, qui, en plus du baptême, évoque aussi l'effusion de l'Esprit-Saint. En effet, c'est ici que s'accomplit ce qui est dit dans le même évangile de Jean, chapitre 7, « Des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. » Il parlait de l'Esprit-Saint que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui. Vous vous souvenez bien de ce passage, le dernier jour de la fête, Jésus s'écria, donc à Jérusalem, « Que celui qui a soif approche, qu'il boive celui qui croit en moi. » Jean fait l'exégèse de ce passage en disant, « Comme le dit l'Écriture, de son sein jailliront des fleuves d'eau vive. » Il parlait de l'Esprit-Saint que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui. Et donc l'eau qui jaillit du côté de Jésus est comme l'accomplissement de cette parole, dite quelques chapitres précédents. Le sacrement de l'ordre découle évidemment du cœur du grand prêtre éternel qui est mort sur la croix. S'il est grand prêtre dès le sein de sa mère, comme nous l'avons dit, a fortiori il l'est à ce moment culminant de sa vie terrestre. Une citation d'un écrit traditionnel et spirituel fait parler la croix elle-même de manière très belle. La croix lui dit, tu seras prêtre dans mes bras. Parole de la croix. Donc la croix qui lui dit, tu seras prêtre dans mes bras. Par son cœur transpercé, on pourrait dire que Jésus, grand prêtre, célèbre déjà les sacrements. On dit souvent que le sacrement, et c'est tout à fait exact, est une célébration par la parole et par le geste, ou mieux encore par une parole qu'un geste accompagne. Ici, on pourrait dire que Jésus célèbre d'abord par la parole. À quel moment? Eh bien, précisément au chapitre 17 de l'évangile de Jean, qu'on appelle la prière sacerdotale du Christ, et qu'on pourrait appeler le testament de son cœur. C'est là où il laisse parler vraiment son cœur en s'adressant exclusivement au Père et en remettant tout au Père pour nous, pour notre salut. Donc il y a cette parole qui est déjà sacramentelle, c'est la parole du grand prêtre qui célèbre et qui laisse parler son cœur sacerdotal. Le geste, lui, viendra plus tard. Il est passif et en même temps rédempteur et recréateur. Il s'agit du transpercement du cœur et de l'effusion du sang et de l'eau, au chapitre 19, justement. C'est là qu'on peut dire que, comme grand prêtre, il dispense les sacrements. Le sacrement de mariage est mystérieusement aussi célébré à ce moment culminant qu'est le transpercement du cœur sur le Golgotha. Le mariage est très intensément signifié par le cœur transpercé. Là, il nous faut revenir un petit peu à la tradition de l'Église, des pères de l'Église, et faire le lien avec le deuxième chapitre du livre de la Genèse. Vous vous souvenez, comme dans le deuxième chapitre du livre de la Genèse, Dieu dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Et jusque-là, l'homme, mis en présence des animaux et autres, il leur a donné un nom, mais il n'a pas trouvé l'aide qui lui fut assortie. Alors, Dieu a fait tomber sur Adam un sommeil, une torpeur, et il lui a ouvert le côté. Et du côté ouvert, il a suscité la femme, son épouse. Et lorsqu'il s'est réveillé, Adam, dans un cri de louange, d'émerveillement, a dit pour le coup, « C'est vraiment l'os de mes os, la chair de ma chair, voilà. Elle sera appelée femme. » Alors les pères de l'Église, avec une très forte intuition, se rappelant d'abord que Paul, dans l'Épître aux Romains, parle du Christ comme le nouvel Adam, celui qui vient du ciel, et par ailleurs dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5, il parle de l'union du Christ avec son Église, comme modèle de l'union de l'homme et de la femme. L'Église est donc ici considérée comme l'épouse ou la fiancée du Christ, dans l'Épître aux Éphésiens, selon Paul. Et il fait le lien avec le mariage. Il dit « L'homme quittera son père et sa mère, il s'unira à sa femme et ils ne feront plus qu'un. » Et alors il ajoute « Ce mystère est grand, il se réfère à l'union du Christ et de son Église. » Alors les pères de l'Église connaissent bien ces deux passages, le Christ d'abord comme nouvel Adam, mais aussi le Christ comme époux de l'Église. Alors ils vont dire ceci, ils vont faire l'analogie très parlante, très convaincante. Du côté ouvert du nouvel Adam, endormi dans le sommeil de la mort sur la croix, il suscite son épouse, l'Église, à travers l'effusion du sang et de l'eau. De même que la première Ève est née du côté du premier Adam endormi dans le jardin d'Éden, de même l'Église épouse est née du côté ouvert du Christ nouvel Adam, son époux, endormi lui aussi dans un jardin, puisque quelques versets plus loin, et ce n'est pas neutre du tout, Saint Jean dira « Or, il y avait un jardin dans le lieu où il a été crucifié. » Donc on voit là qu'en fait le sacrement de mariage est très signifié par le transpercement du côté et par l'avènement de l'Église. Cette sorte d'alliance nuptiale, sponsale, que Jésus manifeste avec l'Église et par l'Église, finalement, avec toute l'humanité. Alors il nous reste encore à voir les deux sacrements de la guérison, que sont le sacrement de la réconciliation et sacrement des malades. Pour le sacrement de la réconciliation, on peut peut-être étudier ce qu'on pourrait appeler l'institution de ce sacrement. Cela se passe au chapitre 20 de l'évangile de Jean au soir de Pâques, lorsque Jésus apparaît au Cénacle, dans cette pièce où ils se sont barricadés par crainte des autorités juives et des persécutions. Il nous est dit, là justement, et c'est très, très typique de Jean, il leur montra ses mains et son côté. Il insiste sur le côté. Jean est vraiment le disciple du cœur de Jésus. Il a reposé sur son cœur pendant la dernière scène. Et il a vu le côté transpercé sur le Golgotha. Et donc il est très centré sur cette dimension de la révélation. Donc Jésus leur montra ses mains et son côté. Et c'est après la mention du côté que Jean dit ceci: Jésus souffle l'Esprit Saint sur les apôtres. Il souffla sur eux, leur disant: recevez l'Esprit Saint. Et alors, il institue en fait le sacrement de la réconciliation. Comment ? En soufflant sur eux, il dit: ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Comme pour une nouvelle création. Donc là, comme nous le voyons, dans l'optique de Jean, il y a le lien avec le côté. Et ce côté qui, de plaie douloureuse, est devenu, dans le mystère de la résurrection, plaie glorieuse, source de toute guérison, de toute conversion, de toute résurrection, de vie finalement, avec un grand V. Et même comme ressuscité, le cœur de Jésus, nous le savons, est toujours ouvert, toujours transpercé. Quant au sacrement de la guérison, ici nous parlerons surtout de guérison spirituelle, il est admirablement symbolisé par l'épisode de Thomas, toujours au chapitre 20 de Jean. Thomas, touchant le côté de Jésus, mets ta main dans mon côté, et dont l'incrédulité et la cécité spirituelle sont guéries et font place à la louange et à l'adoration. Mon Seigneur et mon Dieu. Donc là encore, il y a une dimension sacerdotale, sacramentelle, le contact avec le côté même de Jésus, comme le disent les pères de l'Église par rapport à Thomas. Le sacrement, je le rappelle ce que c'est, le sacrement est le signe visible et tangible d'une réalité invisible. Or les pères de l'Église disent: il toucha l'homme en touchant son cœur, son côté, et il rencontra Dieu. Il est amené par le visible à ce qui est invisible. Il ne se contente pas de reconnaître simplement Jésus de Nazareth, mort et ressuscité, il dit: mon Seigneur et mon Dieu. Du coup, sa cécité spirituelle, son endurcissement, son incrédulité disparaissent complètement. Et il est guéri par un acte de louange, par une confession, par l'adoration. Il y aura encore bien d'autres choses à dire sur le cœur de Jésus comme source des sacrements. Il me semble là qu'à partir de l'Écriture, en tout cas, nous avons quelques indices. Donc je vous le rappelle, à partir du cœur de Jésus encore dans le sein de sa mère, ou alors comme tout nouveau-né, et puis à l'autre pôle de son parcours terrestre, le cœur de Jésus qui se manifeste comme le cœur du grand prêtre, qui se donne totalement, et comme nourriture, et comme époux, comme ami, comme Dieu lui-même, qui se donne sur la croix, et qui par son cœur transpercé nous donne tous les trésors du salut et de la rédemption. Je rappelle d'ailleurs que au diorama de Paray-le-Monial, la dernière image ou l'avant-dernière image, est très suggestive, justement. Elle est très scripturaire et théologique. Elle fait allusion à l'arbre de vie de la Genèse. Au chapitre 2 de la Genèse, l'arbre de vie qui est au milieu du jardin et qui est un arbre entièrement positif. L'homme est invité à se nourrir ultimement de l'arbre de vie. Il ne faut pas le confondre avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui lui se révélera funeste dans la mesure où l'homme n'aura pas respecté la limite que Dieu lui donnait. Donc l'arbre de vie est le fleuve qui coule dans le jardin d'Éden. Et l'auteur de ce passage, l'auteur biblique, nous dit « Un fleuve coulait en Éden et se divisait en quatre bras pour irriguer ensuite la terre entière. » Eh bien, cette image du diorama représente Jésus en fait comme arbre de vie. La croix est comme un arbre, on voit plein de feuilles, il est très touffu. Et du côté du Christ jaillit ce fleuve, le fleuve de l'Éden, et qui au pied de la croix se divise de nouveau, mais pas en quatre, mais en sept, signifiant justement les sept sacrements de l'Église. Donc là, nous voyons bien que dans la tradition à la fois populaire, dans la réflexion des fidèles, des pères de l'Église, de la liturgie, etc., nous en revenons toujours au cœur de Jésus, et là nous en revenons à ce que je vous disais sur Don Marmion, que en fait la célébration du cœur du Christ est ce qu'il y a de plus important dans l'année liturgique, puisqu'en elle nous avons vraiment la source absolument de tout, naturellement des sept sacrements, mais aussi de tout geste, de toute parole, de tout enseignement, de tout miracle, de toute attitude de Jésus. C'est le cœur qui est la clé de compréhension, qui nous permet de déchiffrer le mystère profond de l'amour rédempteur, ce trop grand amour dont nous parle Paul, aussi dans l'Épître aux Éphésiens, je crois, dans son grand amour, nous qui étions des morts, dans son trop grand amour, pourrait-on traduire, il nous a fait miséricorde. Et cette miséricorde, je le rappelle, c'est le cœur de Dieu qui se penche sur notre misère, et dont les sacrements sont en permanence les signes, mais aussi les moyens visibles pour que nous puissions aller de transformation en transformation, de gloire en gloire, de sainteté en sainteté, jusqu'au jour où nous serons prêts et tout à fait configurés au Christ grand prêtre pour participer pleinement à sa vie éternelle et à sa gloire. Amen. Cette heure sainte, alors nous pouvons bien sûr porter toutes nos intentions, les intentions de l'humanité, de l'Église, mais il y a une intention que je vous invite à accueillir. Il faut prier et faire prier pour le Congo démocratique, la République démocratique du Congo, aux prises actuellement avec des difficultés très très graves d'ordre criminel Et cela se révèle surtout après le message très fort du cardinal Mosengwo, qui avec beaucoup de courage a pris la parole, a mis en cause les autorités et a dénoncé l'hypocrisie, le mensonge, la corruption et tout ce qui fait qu'il y a véritablement des crimes qui se passent jusqu'à l'intérieur même de l'Église, avec des intimidations, voire même des meurtres. Donc il s'agit d'un message qui a eu lieu, qui s'est lu le 31 décembre. Et donc, voilà, il nous est demandé maintenant particulièrement de prier pour cette situation extrêmement douloureuse et conflictuelle.
Nous allons prendre page 230.
Gethsémanie dans l'agonie. Et en ce temps de Noël, en nous rappelant aussi cette nuit et l'angoisse de ta mère et de Saint Joseph, lorsqu'en songe, il eut vent de ce désir d'Hérode de supprimer l'enfant. Cette nuit des saints innocents, cette nuit aussi d'Égypte, où les mères ont perdu leur premier-né. Seigneur, nous voulons joindre à ce temps de prière près de toi tous nos frères et sœurs en agonie en ce moment. et ses disciples parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. » Méditation du cardinal Ratzinger, le pape Benoît XVI, dans Jésus de Nazareth. Tout en priant, Jésus sort avec les siens dans la nuit, nuit qui rappelle celle où les premiers-nés de l'Égypte ont été frappés et où Israël fut sauvé par le sang de l'agneau. Il sort dans cette nuit où il doit prendre sur lui le destin de l'agneau. On peut penser que Jésus, dans le contexte de la Pâque qu'il avait célébrée à sa manière, aura chanté sans doute quelques psaumes dans lesquels Dieu est remercié d'avoir libéré Israël de l'Égypte. Psaume aussi où est évoquée la pierre rejetée par les constructeurs, devenue maintenant de manière prodigieuse pierre d'angle. Par l'évocation de la pierre rejetée sont rendues présentes à la fois l'obscurité et la promesse de cette nuit.
Ses disciples parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples : Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. Puis Jésus emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean et commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit : Mon âme est triste à mourir. Restez ici, éveillés. Page 128. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô toi le longanime qui fais sans fin miséricorde, fais-nous grâce en ton amour, en ta tendresse guéris-nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, la beauté du premier jour où tu nous façonnas à ton image, toi le créateur de l'Église, sauve-nous. Jacques et Jean et commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit « Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez. » Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait « Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Méditation du cardinal Ratzinger. Ici, Jésus a fait l'expérience de la solitude ultime et de toute la tribulation de l'être homme. Ici, l'abîme du péché et du mal dans tous ses aspects a pénétré dans les profondeurs de son âme. Ici, il a été frappé par le bouleversement de la mort imminente. Ici, le traître l'a embrassé. Ici, tous les disciples l'ont abandonné. Ici, il a combattu aussi pour moi. Saint Jean reprend toutes ces expériences et donne à ce lieu une interprétation théologique quand il dit « De l'autre côté du torrent du Cédron, il y avait là un jardin. » Il est évident que Jean, avec ce mot « jardin », fait allusion au récit du paradis et du péché originel. Il veut nous dire qu'ici, cette histoire est reprise. C'est dans le jardin qu'a eu lieu la trahison. Mais le jardin est aussi le lieu de la résurrection. Dans le jardin, en effet, Jésus a accepté jusqu'au bout la volonté du Père, il l'a fait sienne, et ainsi il a renversé l'histoire.
Thank you.
Possible pour toi, éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Puis il revient et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors, tu n'as pas eu la force de veiller seulement une heure. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » Page 212.
Regardez, réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Illumine mes yeux, que dans la mort et le péché, je ne vienne à tomber, que l'adversaire ne puisse dire, je l'emporte sur lui, que l'oppresseur ne puisse exulter. Âme, voix, chanceler. En ton amour, je me confie. Mon cœur est plein de joie. En ton salut, je veux chanter et jouer ton saint nom. En ton salut, je veux chanter et louer ton saint nom.
Trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors. Tu n'as pas eu la force de veiller seulement une heure. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, Jésus s'éloigna et pria en répétant les mêmes paroles. Du cardinal Ratzinger, le pape Benoît XVI. Chez Jean aussi, nous trouvons les deux demandes de Jésus. Père, sauve-moi de cette heure. Père, glorifie ton nom. Le tourment de l'âme humaine de Jésus, mon âme est troublée, pousse Jésus à demander d'être sauvé de cette heure. Mais la conscience de sa mission, le fait qu'il soit venu justement pour cette heure, lui fait prononcer la deuxième demande, la demande que Dieu glorifie son nom. La croix précisément, l'acceptation de cette chose horrible, le fait d'entrer dans l'ignominie de l'anéantissement de la dignité personnelle, dans l'ignominie d'une mort infamante, tout cela devient la glorification du nom de Dieu. C'est en effet ainsi précisément que Dieu se manifeste pour ce qu'il est, le Dieu qui, dans l'abîme de son amour, dans le fait de se donner lui-même, oppose à toutes les puissances du mal le vrai pouvoir du bien. Ces demandes, Jésus les a énoncées toutes les deux, mais la première, celle d'être sauvé, se font avec la seconde qui demande la glorification de Dieu dans la réalisation de sa volonté. Et ainsi l'opposition dans l'existence humaine intime de Jésus est recomposée en unité. Jésus s'éloigna et pria en répétant les mêmes paroles. Une troisième fois, il revient et leur dit « Désormais vous pouvez dormir et vous reposer. C'est fait, l'heure est venue, voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici qu'il est proche, celui qui me livre. » Page 231.
Adoramus te, Jésus, Fils de Dieu. Ô Dieu Saint, nous venons t'adorer. Adoramus te, Jésus, Roi des rois, Dieu Sauveur, nous venons t'adorer. Adoramus te, Jésus, Fils de Dieu, ô Dieu Saint, nous venons t'adorer. Adoramus te, Jésus, roi des rois, Dieu sauveur, nous venons t'adorer. Jésus, image du Père, splendeur éternelle, Jésus, source de la vie, Jésus, Dieu fait homme, Fils du Dieu vivant, Jésus, Prince de la paix, adorabus te, adorabus te, Jésus, Fils de Dieu, ô Dieu Saint, nous venons t'adorer. Adorabus te, Jésus, roi des rois, Dieu sauveur, nous venons t'adorer.
Jésus parlait encore quand Judas, l'un des douze, arriva, avec lui une foule armée d'épées et de bâtons. À peine arrivé, Jésus s'approchant de Jésus, Judas s'approchant de Jésus lui dit « Rabbi » et il l'embrassa. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent.
Page 318.
Sanctum ego sacramento, veneremur genui, et anticum documentum, novo cedat ritui, restet fides supplementum, sed sum defectui.
Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour les mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Amis auditeurs de Radio Espérance, nous allons recevoir maintenant la bénédiction eucharistique. C'est vraiment Jésus lui-même qui nous bénira et qui viendra toucher chaque auditeur là où il se trouve. Mettons-nous en position d'accueil la plus favorable pour accueillir cette bénédiction. Le prêtre a revêtu le voile huméral et se prépare à bénir les fidèles et à travers les ondes de Radio Espérance tous les auditeurs. Il fait la génuflexion, il élève l'ostensoir et bénit les fidèles et les auditeurs au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Dieu soit béni.
Béni
soit son saint nom.
Béni
soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme.
Béni
soit le Christ roi.
Béni soit
le nom de Jésus.
Béni
soit son sacré cœur.
Béni
soit son précieux sang. Béni soit Jésus au Saint-Sacrement de l'autel.
Béni soit
l'Esprit-Saint Consolateur.
Béni
soit la Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère.
Béni
soit sa Sainte et Immaculée Conception.
Béni
soit sa glorieuse Assomption.
Béni
soit Saint Joseph, son époux très chaste.
Béni
soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Seigneur, donne-nous de saints prêtres et de saintes vocations religieuses.
Parole vivante, patient et fidèle, Jésus, toi notre chemin, adorable c'est, Jésus, Dieu très saint, notre Rédempteur, Jésus, vérité et vie, Jésus, roi des rois.
Remercions les auditeurs de Radio Espérance. Nous sommes en communion de prière. Nous célébrerons la messe ici dans la chapelle des apparitions qui sera retransmise à 11h demain matin, premier vendredi du mois. Pour tous ceux qui sont à Paray-le-Monial, vous pouvez donc entendre pendant toute cette retraite que nous venons de commencer jusqu'à dimanche plusieurs enseignements autour des sacrements. Nous accueillons particulièrement tous les néophytes qui sont les bienvenus pour approfondir leur foi chrétienne, mais chacun de nous pourrons profiter de ces enseignements. Autour de ces enseignements, il y aura bien sûr donc la messe du premier vendredi du mois, la prière des malades à 18h dans les salles de l'abri, dans le parc des Chapelains, la soirée miséricorde à 20h30 dans la chapelle La Colombière, et d'autres rencontres encore samedi et dimanche. Bonne soirée à tous. Vous pouvez prendre pour ceux qui font partie de l'heure de garde la parole du mois. Et nous pouvons maintenant, ceux qui veulent aller adorer à Saint-Jean pour poursuivre l'adoration, le code est 0410B et nous allons nous terminer en nous confiant à la Vierge Marie.
Alma Redemptoris Mater, quae per via Caeli porta manes, et stella maris, succurre cadenti, surgere qui curat populo, tuque genuisti, natura mirante, tuum sanctum genitore. Posterius Gabrielis amore sum ex illudare peccatorum miserere.
Et bonne année encore à ceux.
De Radio Espérance, nous venons de vivre ensemble et en direct depuis la chapelle de la Visitation à Paray-le-Monial, l'heure sainte, en cette veille du premier vendredi du mois. Tout à l'heure à 22h30, nous rouvrirons le studio de Saint-Étienne pour la suite des programmes. Nous vous donnons rendez-vous demain à 11h pour la messe du premier vendredi du mois. Didier vous souhaite une bonne soirée sur les ondes de Radio Espérance. À bientôt, au revoir.
Thank you.